Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Il ne faut pas perdre l'espoir. Notre Seigneur est vivant et il est vivant au siècle des siècles. Donc, quelles que soient les circonstances, nous pouvons vivre. Car lui aussi, il avait connu des circonstances plus outrageuses que nous. Et ce que Jésus a vécu sur la croix, personne d'entre nous ne le peut. Personne. Dans une conversation avec ses disciples, Jésus avait demandé, qu'est-ce qu'on dit de moi d'ailleurs? Qui dit-on que je suis? Et c'était Pierre qui était très chaud devant le groupe. Et c'est lui qui avait donné la réponse. C'est lui qui avait dit de quoi il s'agit. Et à sa réponse, Jésus avait dit à Pierre, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Jésus a fait une sorte de jeu de mots. Ce passage se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. C'est là notre texte de base ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Parole du Seigneur. Le titre de notre message ce matin, c'est le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église. Pour bâtir une maison, l'homme a souvent besoin d'un architecte, d'un ingénieur, d'un contremaître, des matériels et des matériaux. Voici un homme qui constitue tout seul le fondement de son temple basé sur la vérité et le salut de Dieu, savoir Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire de l'Église dont il est le chef et le propriétaire. Dans notre texte, nous allons voir la fondation de l'Église, sa mission et sa destinée. La fondation de l'Église, c'est déjà vu, c'est Jésus-Christ même, cette fondation. Nous avons passé quelque temps ici avec Frère Roland dans l'étude concernant l'Église, plusieurs dimanches. Ça veut dire si vous êtes régulier, arrivé quelque part ailleurs, quelqu'un vous a demandé c'est quoi l'Église, nous espérons que vous êtes en mesure de répondre c'est quoi l'Église. Mais il reste tant de choses à apprendre, car nous ne finirons pas de tout épuiser, quel que soit le thème. On ne peut pas tout épuiser. L'Église vient du grec « ecclésia », qui signifie « appelé hors de », « mis à part ». Ce matin, l'Église que nous sommes mis à part pour servir notre Dieu. Et cette mise à part, c'est pour un service spécial. Parce que n'importe qui ne peut pas s'arroger le droit de partir pour servir Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Non, c'était les disciples qui étaient chargés d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Église est le corps mystique de Jésus-Christ. Et c'est la foi qui puisse nous aider de comprendre ça. Que l'Église soit le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église est la communauté des croyants qui ont la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce temple, hein? Cet immeuble où nous sommes réunis. Fort souvent, quand on dit on va à l'église, on voit les temples. Mais pourtant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes membres les uns des autres. Parce que nous formons un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. C'est l'ensemble des personnes professant une même croyance et une même doctrine. On dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Si quelqu'un vient ici, il ne digère pas ce qu'on dit de l'Église, ce qu'on dit de Jésus. Ne soyez pas étonnés qu'il s'en aille. Parce que ces paroles ont un sens différent pour nous par rapport à ceux qui sont dehors. L'Église, c'est la propriété de Jésus-Christ. Et puisqu'on parle d'Église, faut-il bien qu'il y ait une naissance? L'Église a pris naissance le jour de la Pentecôte, soit 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Et voilà pourquoi l'Église est fondée sur Christ. Sa fondation, sa base est Jésus-Christ même. Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 3, verset 11. Et après la naissance, il faut grandir. Jésus n'était pas resté rabougri. Il croissait en sagesse. à tous les points de vue spirituels, mentaux et physiques. C'est comme beaucoup d'autres religions montrent Jésus-Christ toujours comme un enfant. Jésus n'est plus un enfant. Il a grandi. Et il a rempli son ministère terrestre. C'est pareil quand on parle de Jésus qui est mort. Jésus était mort, certes, mais il est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Paul disait aux rebelles, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et notre prédication aussi est vaine. Jésus, il est ressuscité. Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas un oui-dire, c'est une réalité. Et l'Église aussi doit grandir en esprit et en nombre. Dimanche dernier, dans l'après-midi, il n'y avait pas de place ici. Hein? On était obligé de sortir toutes les chaises pour installer. Et ce matin, nous pouvons faire l'expérience pour voir les chaises qui sont vides. Et pour grandir en nombre et en esprit, l'hospitalité, la communion fraternelle, la prière, l'enseignement de la parole de Dieu sont les garants de cette croissance. Si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas accueillir les autres. Puisque Jésus lui-même a dit que tout royaume divisé est sujet à périr. Nous devons rester unis si nous voulons être forts. Si nous voulons que les autres nous suivent, nous devons rester unis. Et cette unité se fait dans la communion fraternelle. Il n'y a pas de différence entre nous. Nous avons le même Père, la même espérance, le même salut, la même grâce. Et qu'est-ce qui nous divise? Quand l'Église est en bonne santé spirituelle, elle édifie sa croissance. Elle ne reste pas à l'état mort. Elle grandit. Le message de l'Évangile et les principes fondamentaux ne changent pas, puisque Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pourquoi nous changeons? Alors que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes membres les uns les autres. Dieu n'a pas changé. Nous avons vu tout à l'heure dans le psaume 100 que sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et les méthodes peuvent être changées à chaque nouvelle génération. Il est évident que certaines méthodes qui fonctionnaient dans le passé ne soient plus efficaces aujourd'hui. Et surtout, avec la montée en puissance de la technologie. Jésus-Christ, il était malade avec les malades, il était prisonnier avec les prisonniers, et Paul l'avait suivi. Paul l'a suivi pour dire qu'il est juif avec les juifs, il est africain avec les africains, il est américain avec les américains, il est européen avec les européens. Pourquoi? Pour faire passer l'évangile, ce message dont tout le monde a besoin, dont le monde a besoin pour avoir la paix aujourd'hui. Malgré les bienfaits et les méfaits de la technologie, l'évangile fait son petit bonhomme de chemin. Nous pouvons voir aujourd'hui comment ça se passe. Et nous pouvons voir aujourd'hui ce que Dieu a mis à notre disposition pour que l'Église progresse. Dieu donne à l'Église de nouvelles méthodes pour atteindre chaque nouvelle génération. Ecclésiaste, il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Selon Ecclésiaste chapitre 3, le verset 6. Chez chacun de nous, ici, on parle des encombrants. Hein? On avait acheté, on a utilisé, on jette. Mais parmi ceux qui sont à la maison, il y a d'autres qui sont restés. Si nous avons bonne mémoire, ce n'était pas ces chaises que nous avons avant. Hein? Nous avons eu des chaises en plastique. On s'assoit dans un moment, on entend un bruit, c'est cassé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé. Et aujourd'hui, nous sommes bien assis. Hein? C'est un progrès. Et l'Église fonctionne de cette façon. Aujourd'hui, les portables, les téléviseurs, les ordinateurs peuvent prouver la difficulté et la différence. Hein? Si vous prenez un ancien Nokia là pour donner à un enfant, eh bien, il va le jeter. Mais oui, il va le jeter puisque ça ne sert à rien pour lui. On arrive dans le magasin, l'enfant, il va toucher la pomme. Hein? Parce que ce type de portable, c'est à la mode aujourd'hui. Eh bien, il faut jeter ce qui n'est plus à la mode pour venir avec le nouveau système. Et c'est chaque fois comme ça. On était à 5, je ne sais pas s'il y avait 5, aujourd'hui c'est 5G. Hein? Si on n'a pas 5G, on n'est pas à la mode. Avant, pour la télé, il y avait une petite appareil branché dessus. Aujourd'hui, c'est fibre. Et là-dedans, il y en a tout. Le monde change, mais l'Église reste dans les mêmes circonstances. La parole de Dieu ne change pas, mais l'Église doit bouger. Si nous voulons atteindre le monde, nous devons bouger, parce que nous avons une mission. Oui, nous avons une mission. L'histoire de Jésus est toujours nouvelle. Et la mission de l'Église consiste à annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, quand Jésus se présentait devant ses disciples, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le verbe aller, c'est un verbe de mouvement. Ce n'est pas seulement rester là pour dire qu'on annonce l'évangile. Hein? Il faut aller. Il faut sortir. Il faut bouger. Il faut marcher. Pour présenter la bonne nouvelle au monde entier. Après l'ascension de Jésus, les apôtres sont retournés à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit qui a été promis. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est écrit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'évangile que nous avons, cette bonne nouvelle, n'est pas une bonne nouvelle pour garder pour soi-même. Nous devons partager cette bonne nouvelle aux autres. Nous devons partir présenter cette belle histoire. Et c'est notre mission. Ça doit être commencé d'abord à Jérusalem. Les disciples ne devaient pas laisser Jérusalem avant la venue de Jésus, du Saint-Esprit. Est-ce que nous prêchons l'évangile d'abord chez nous? Autour de nous? Dans nos voisinages? Dans notre ville? Dans notre quartier? Est-ce que l'évangile est prêché? C'est notre mission, mes frères et sœurs. C'est notre mission. Jésus ne nous avait pas donné la mission d'aller partout pour chanter. Il a donné la mission d'aller partout prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La technologie moderne nous donne plusieurs opportunités propices d'évangéliser. En avons-nous profité? Vous savez, aujourd'hui, avec un seul message sur les portables, vous pouvez atteindre plusieurs personnes par ce message de l'évangile. Est-ce que nous l'avons fait? Les messages des réseaux sociaux, les matchs de football, les images et les séries nous arrachent le temps de prêcher l'évangile. Nous donnons plus de temps, plus de valeur aux images, aux messages qui d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dimanche dernier, dans le message du pasteur Aldo, pendant la cérémonie de baptême, il était sorti cette question. Que ferez-vous de Jésus? Qu'est-ce que vous avez fait de Jésus? Est-ce que vous avez annoncé sa bonne nouvelle? Il est mort, il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Est-ce qu'il y a une autre personne qui est passée par là? Non. Le monde a connu des grands hommes, mais ils sont morts définitivement. Mais pourtant, notre Seigneur, il est mort et il est ressuscité. Il fait la différence qu'aucun homme ne peut faire. Voilà pourquoi notre assemblée est souvent clairsemée, parce que le travail d'évangélisation est trop négligé. Et Jésus, il va nous demander compte hein, pour la mission que nous avons d'annoncer la bonne nouvelle. L'Église doit offrir ce que les gens ne peuvent pas trouver ailleurs. Ça veut dire si une personne vient du dehors, quand elle arrive ici, elle doit trouver des choses qu'elle ne peut pas trouver dehors. Est-ce que c'est comme ça chez nous ce matin? Si la personne voit dehors un garçon qui s'habille avec un pantalon aux fesses, il ne doit pas voir ça ici. Si la fille porte une robe ou bien sa façon de s'habiller, aujourd'hui on parle de soutien-gorge, toutes les seins de la personne est dehors. Est-ce que c'est comme ça ici? La personne, quand elle rentre ici, devait voir la différence. Et des fois, nous offrons des choses pires que ceux qui sont dehors. Dieu nous posera des questions. Qu'est-ce que vous avez fait de mon évangile? Parce que vous avez une mission à remplir. Et cette mission doit être remplie par tous les moyens. Votre façon de parler, votre façon de vous habiller, votre façon d'agir témoigne l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous arrivez quelque part, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes dans qui vous êtes. On peut le voir dans votre façon d'agir. On peut voir que cette femme, cet homme a une différence. Et c'est seulement Jésus-Christ qui puisse donner cette différence chez nous. La louange, la prédication, l'amour fraternel de qualité doit être des choses que les gens du dehors trouvent chez nous parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça dehors. Car nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Si les gens sont dans la noirceur dehors, et puis quand ils arrivent ici, il n'y a pas de différence. Vous savez très bien la valeur du sel. Hein? Dans les viandes, surtout dans les poissons. Hein? Dieu n'a pas parlé de mettre les poissons dans les congélateurs. Quand vous salez les poissons résistent. Le poisson ne pourrit pas. Et en tant que sel de la terre, nous avons l'opportunité de garder ce monde dans une attitude propre. Parce que nous donnons du goût à ce monde. Si le monde nous imite comme nous nous imitons Christ, le monde serait beau, hein, au point de vue social. Très beau. Mais le mal, c'est parce que notre façon d'agir ne fait pas la différence de ce qui se passe à travers ce monde. Si nous voulons construire une église forte, en bonne santé, nous devons passer du temps à poser des fondations solides. Et la fondation solide, c'est Christ. C'est lui seul. Il existe deux églises. L'église locale et l'église universelle. Il n'y a pas d'église modèle, mes frères, mes sœurs. Il n'y en a pas. L'illustration est faite aux sept églises de l'Asie mineure. Si vous lisez Apocalypse 2 pour voir ces sept églises, vous allez avoir l'opportunité de situer votre église ou bien de vous situer en tant qu'église. Il n'y a pas de modèle. Et l'église d'Éphèse pouvait faire la différence après avoir lu tout ce qui est passé dans l'église d'Éphèse. Il y a un mais. Ce mais, c'est un contraste de tout ce qui était dit. Et vous savez, qu'est-ce qui suit ce mais? Il dit, mais l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Tu as beaucoup fait de bien. Tu as beaucoup dit pour changer. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Autrefois, l'église était pleine dans l'ensemble. On se mettait ensemble pour adorer Dieu. Hein? L'église avait donné priorité à l'adoration, priorité les dimanches à venir ici. Le dimanche, ce n'est pas un jour de travail. Bon, si vous travaillez un dimanche, c'est bien, parce qu'il y a des emplois, et un dimanche sur deux, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes tous des observateurs, hein, ce qui se passe ici et ailleurs. Voilà pourquoi je vous dis, laissez ici pour aller dans une autre église, vous allez faire, hein, votre observation tout seul. Les chrétiens doivent être unis et rester unis. Parce que Jésus-Christ même, dans sa prière sacerdotale, il avait demandé à son Père que nous soyons unis. Toujours. Et c'est là notre force. On peut comparer un chrétien qui s'est détaché de l'église à un joueur de football sans équipe. Vous pouvez être un joueur, mais si vous n'avez pas d'équipe, il manque quelque chose. On peut comparer un chrétien détaché de l'église à une brebis sans troupeau. Si vous êtes une brebis sans troupeau, eh bien vous êtes seul. Et ce chrétien est l'image d'un enfant sans famille. Voilà pourquoi Jésus avait demandé de ne pas abandonner notre assemblée. L'Église est la famille de Dieu, le support et la fondation de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus les disciples. Qui sont les disciples? C'est nous. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, c'est alors qu'on va nous connaître comme ses disciples. Et quand il n'y a pas d'amour les uns pour les autres, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de collaboration. On n'est pas à l'aise avec Frère Roland. On n'est pas à l'aise avec Matt. On n'est pas à l'aise avec X, avec Y. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cet amour. Quand il y a l'amour, il y a la communion. Quand il y a l'amour, il y a la joie. Il y a toujours la satisfaction. Un chrétien sans famille spirituelle est considéré comme un orphelin. Parce que nous avons une famille, la famille de Dieu. Ce n'est pas en bougeant dans tous les sens à courir le monde qu'on va réussir à construire une vie stable et prospère. Non. Et comme dit le vieux dicton, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Hein? Et c'est un dicton vrai. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui ici, demain là-bas, après demain de l'autre côté. Il n'y a rien. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et il faut rester attaché en lui. En tant que l'Église. Et nous pouvons le faire. Puisque nous sommes en sécurité avec Christ. Oui, l'Église est en sécurité. L'Église de Jésus-Christ est en sécurité de façon permanente, parfaite et indéfectible. Et voilà pourquoi Jésus il avait dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui peut détruire l'église de Jésus-Christ? Et cette sécurité durera toujours. Jésus dit à ses disciples, qui le connaissait. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Voilà notre sécurité en tant que croyants que nous trouvons dans Jean chapitre 10, verset 28. Le salut que nous avons, c'est un salut éternel. C'est un salut que les rouilles ne peuvent pas détruire. C'est un salut qui est là pour l'éternité. Et nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Le psalmiste David dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Si vous êtes l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Quels que soient les bruits que vous entendez, nous sommes en sécurité avec Dieu. Même une branche de nos cheveux ne peut être arrachée sans la permission de Dieu. Et pourquoi avons-nous peur? Dans Psaume 23, verset 4, David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et c'est ça pour chacun de nous, ce matin, en tant qu'église. Et David a fait l'expérience quand son propre fils Absalom jalousait sa royauté. On peut avoir une persécution qui vient d'ailleurs, mais quand c'est dans la maison, dans sa propre famille qu'il y a cette persécution, c'est très difficile, mes frères et sœurs, à supporter. Très difficile. Mais David en avait fait l'expérience. Il est resté fidèle à Dieu et il était en sécurité. Nous devons faire confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle et il est bon. Nous pouvons assurer nos vies et nos biens dans la plus grande compagnie d'assurance. Mais quand les cataclysmes dévastateurs sont passés, ils ont tout détruit. Alors, qui est votre sécurité aujourd'hui? Les compagnies d'assurance vous demandent d'assurer votre portable, d'assurer votre télé à la maison, d'assurer votre ordinateur, d'assurer tout ce que vous avez. Et déjà, votre maison est déjà assurée. Mais le mal, c'est que vous sortez de l'église, arrivez là, dès que vous laissez la porte ou bien depuis ici, la première chose qu'on touche, c'est le portable pour voir s'il n'y avait pas de message. Hein? Eh oui, il n'y a pas de priorité d'autre. C'est mon portable pour voir s'il n'y avait pas de message. Qui m'avait appelé? Et puis, dans l'empressement, le portable tombe. Vite cassé. Il n'y a plus d'écran. Mais ce portable était assuré. C'est une expérience, mes frères et sœurs. Si nous sommes assurés par celui qui ne peut pas donner sécurité à lui-même, il ne peut rien faire pour nous. Si vous ne pouvez pas vous donner sécurité, comment pouvez-vous donner sécurité aux autres? C'est une logique. Laissez notre sécurité sur le compte de Dieu et nous allons vivre bien en sécurité. Quand nous assurons notre vie en Christ, nous avons une sécurité sans limite. Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Avec cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand l'Éternel est avec nous, rien ne peut nous arriver. Et s'il y a quelque chose qui nous arrive, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Nous oublions souvent que Étienne était un vrai serviteur de Dieu. Et nous savons comment il était mort, lapidé. Mais nous répétons souvent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il faut accepter ça aussi, hein. Il faut accepter la maladie, il faut accepter le chômage, il faut accepter les persécutions, il faut accepter les maux. Parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et nous sommes assurés par Dieu. Sinon, il nous manque de foi. Voltaire a écrit que le génie n'a qu'un siècle, après quoi il se dégénère. Ne faisons pas confiance, mes frères et sœurs, aux promesses électorales. Fais confiance constamment à notre Dieu. Nous avons vu et nous avons entendu tous les débats concernant les élections. Hein? Vous mettez confiance que ça va être fait? Là où nous sommes dans ce pays, c'était toujours comme ça depuis plus que 40 ans. Qu'est-ce qui change? Ce sont les mêmes promesses, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes conversations. C'est les mêmes discussions. Qu'est-ce qui change? Tous les candidats se présentent comme des renards. Hein? Qui voulaient le fromage du corbeau. Eh bien, il a flatté le corbeau jusqu'à ce que le fromage soit tombé. Et il l'a pris, c'est tout. Faites confiance à Dieu, parce qu'il a tout le pouvoir. Son pouvoir n'a pas de fin. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il peut tout et il est partout. Et rien ne s'oppose à sa pensée. Vous imaginez, quand on voit ce qui est dans le monde, Dieu n'avait pas de conseiller pour construire le monde, pour bâtir le monde, pour créer le monde. Il n'avait pas de conseiller. Mais aujourd'hui, quand les difficultés surgissent, nous oublions la toute-puissance de Dieu. Et nous cherchons d'appui ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes plongés. Puisque notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La destinée de l'Église est dans la main de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3, il y avait un peu d'inquiétude avec les disciples. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Hein? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 1er à 3. Jésus ne dit rien de la nature de l'endroit où il s'en allait. Mais il sait que ses disciples connaissent le chemin. Nous connaissons aussi ce matin, mes frères et sœurs, le chemin qui mène au ciel. C'est par Jésus qu'il faut passer. Jésus, c'est lui qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas une question et tout, les chemins mènent à Rome. Non, c'est un seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin par excellence. Il suffisait que les croyants sachent qu'ils seraient avec le Père et Jésus pour aller au ciel vers le Père. Il faut passer par Jésus. Et par Jésus seul. Et si vous avez ce Jésus dans votre vie, comme Seigneur, comme Sauveur, le chemin est déjà préparé pour vous. Mais à l'inverse, si vous n'avez pas Jésus ce matin, vous ne pouvez pas espérer d'être avec nous dans le ciel. Et si vous voulez les voir, c'est maintenant qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Le salut est là maintenant. L'homme sage construit sa maison sur le roc. Sur le rocher, et ce rocher, c'est Jésus. Sans crainte de l'inondation. Et nous lisons ce passage dans Luc chapitre 6, verset 48. Quand notre maison est solide, quand notre maison est construite sur le roc, quand notre maison est faites de bons matériaux. Nous n'avons pas peur de l'inondation. Est-ce que nous, en tant qu'Église, c'est Jésus qui est notre base? L'insensé bâtit sa maison sur le sable. Sans fondement. Et elle est détruite par le torrent. Il y a deux hommes là, le sage et l'insensé. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si vous êtes sage, c'est parce que vous êtes en bonne relation avec Dieu. Parce que Jésus-Christ est la sagesse. Si nous avons Jésus-Christ dans nos vies, nous avons la sagesse. Nous ne pouvons pas bâtir notre maison comme l'insensé. Et le psalmiste dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Comment est bâtie votre maison? Sur quelle base elle est posée? Qui est son fondement? chacun de nous puisse répondre à cette question de façon personnelle. En Christ, nous avons cette assurance qui a été prophétisée par Ésaïe. Regardons dans Ésaïe 28. Dans Ésaïe 28, le verset 16a. Dans Ésaïe 28, le verset 16a, voici ce que le prophète nous avait annoncé. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Est-ce que vous avez cette pierre dans votre maison, frères et sœurs? Et cette prophétie était accomplie par Jésus dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Nous connaissons tous ce passage, hein? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur ce matin, vous ne pouvez pas dire ces mots avec assurance. Certainement, c'est écrit, puisque la Bible, c'est un livre. Tout le monde peut le lire, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? S'il n'est pas votre Sauveur ce matin, il faut chercher à le faire avant de sortir d'ici. Sinon, vous n'êtes pas en sécurité. Sinon, vous êtes tombé à tout bruit, à tout mouvement. Parce que dans votre construction, vous n'avez pas cette pierre précieuse qui constitue la base de votre fondation. Je bâtirai mon église, nous, l'église de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Frères et sœurs, nous sommes en sécurité avec Christ. Quelles que soient les circonstances que vous entendez, que vous voyez, faisons confiance à notre Dieu. Il ne nous abandonne jamais. C'est lui qui dit, je ne les laisserai pas orphelins. Et de quoi vous inquiéter? C'est une certitude de notre salut éternel. Nous n'avons pas à nous inquiéter, car nous attendons, même avec impatience, le retour de Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui puisse nous sortir de ce marasme politique, social, économique où nous sommes ce matin. Que le Seigneur nous aide à rester attachés en Christ jusqu'à son retour et qu'il nous bénisse. Merci.